Pilou, pou, pou, pilou. Ah non, pas ça. Juste nous, déjà, c'est bien.
Bon, parfait. Salut.
Un petit peu sportif, ce début d'émission. Il y a un truc qui me tombe dessus, là, en direct. Hop, on le revisse. Bon, alors, t'as lu, toi, apparemment.
Oui, j'ai lu. J'ai lu notamment deux livres. Donc, Visite de l'ICAM et Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel.
Ok. Et Pierre-Marie aussi, il est censé...
Tout à fait.
Et aussi nous parler de du mois de l'imaginaire.
Exactement.
Notamment ce
qu'on anime deux tables rondes très très intéressantes.
Bah tiens, le voilà.
Et si c'est 13 octobre. Fermé
dehors. Vas-y, meuble. Je vais lui non, bah c'est l'inverse, c'est moi qui meuble. Et donc si c'est 13 octobre à l'université d'Angers, à la BU pour être plus précisément, deux tables rondes sur les littératures de l'imaginaire dont nous allons vous parler plus précisément. Et ben après ce premier morceau que je vous ai sélectionné, c'est INVSN, mais en fait ça se dit en un mot. D'après vous, c'est quoi ce mot INVSN? Il y a plein de groupes en ce moment, ils ont tendance à enlever toutes les voyelles de leur nom et se faire un groupe de rock cool comme ça. C'est Invasion. Invasion, groupe suédois. D'ailleurs, dedans, on retrouve, comment il s'appelle, Denis Blixten, quelque chose comme ça, qui était le monsieur qui était dans Refused, célèbre groupe de punk suédois. Et puis aussi, on l'a vu dans International Noise Conspiracy, qui était un petit peu rock'n'roll plus. Et là, c'est son projet un petit peu plus goth. Alors, on s'écoute un extrait de leur dernier titre et je les passe parce qu'ils seront en concert dans une semaine aux Jokers. Vous pourrez y aller, il n'y aura pas notre émission. On s'écoute à tout de suite sur le 101.5.
And we
Invasion, donc dans Imaginaire sur le 101.5, groupe suédois qui seront en concert mardi prochain au Joker's Pub. On a récupéré Pierre-Marie pendant ce temps-là. Est-ce qu'on l'a récupéré?
Récupéré. Je vous honore de ma présence, s'il te plaît.
T'es venu avec un livre, je vois.
Oui, il paraît qu'il faut que je fasse une chronique.
Ouais.
Non, ça ne parle pas.
Mais avant tout, on aurait aimé que tu nous parles du mois de l'imaginaire et notamment de ce que l'association Imaginaire va y faire.
Exactement. Alors, on ne fait rien dans le mois de l'imaginaire, mais on fait en partenariat avec le mois de l'imaginaire. La nuance est subtile, mais elle existe. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'action propre, mais sur demande de l'Université d'Angers, nous animons deux tables rondes qui ont été prévues pour le mois de l'imaginaire, en partenariat avec les maisons d'édition qui sont au nombre de 4, YBY Édition, Argile, La Volte et Le Bélial.
C'est aussi en partenariat avec notre libraire partenaire.
Alors, oui et non. Pas. En fait, c'est nous qui l'embarquons. On a un peu forcé la main pour qu'il soit présent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutes les entités publiques répondent à des appels d'offres lorsqu'il s'agit de fournir. Et eux, on leur a dit, si on est co-organisateur, c'est nous qui embarquons. Donc voilà, ils sont pas dedans, mais ils seront présents. Bon. Et vous aurez, si vous êtes étudiant, accès à des tarifs préférentiels. Et
en tout cas, c'est dans leur newsletter.
Exactement.
J'ai reçu aujourd'hui.
Alors, de quoi exactement qu'on cause? Eh ben, en fait, en partenariat avec le mois de l'imaginaire, l'Université d'Angers avait décidé de mettre en place deux conférences à destination des étudiants, mais aussi et surtout à destination de professionnels aguerris qui n'ont pas forcément beaucoup de temps et qui voudraient écouter des choses en lien avec l'imaginaire et surtout les littératures de l'imaginaire. De là, s'est posé la question de quels seraient les thèmes de ces conférences-là. Le premier thème a été suffisamment facile à trouver puisqu'il s'inscrit directement dans le programme pluriannuel de l'Université d'Angers, plus exactement du 4, qui est l'organe du campus Saint-Serge, et qui est sur le militantisme. Alors en ce moment, ils sont sur l'écoféminisme, mais globalement, ils sont sur le militantisme. Et donc, la première question, c'est est-ce que la littérature de l'imaginaire, écrire de la littérature de l'imaginaire, est-il un acte militant? Alors de là, c'est Manon Tardy, membre de l'association plus ou moins, qui va modérer cette table ronde en compagnie de Camille Le Boulanger, auteur militant pour le coup, et de Fanny Truchon, qui est l'éditrice de YBY et aussi autrice dans cette maison d'édition, qui est aussi une maison d'édition militante, puisque là il s'agit d'une maison d'édition qui propose uniquement des textes inclusifs.
Okay.
Donc on a l'aspect social avec Camille Le Boulanger, avec Fanny Truffon. Excusez-moi, on a l'aspect politique avec Camille Le Boulanger. Et puis, Manon arrive, elle, avec son bagage universitaire, puisqu'elle est doctorante, sur l'écologie et l'écoféminisme.
Et Camille, alors on l'avait connue, on l'avait reçue.
On l'avait reçue à l'époque où Bertram Le Baladin venait de sortir chez Critique et qu'il y avait Malboire qui sortait, et qui est vraiment un texte extrêmement fort sur la place de l'individu dans la société et qu'est-ce que l'individu. Donc ça, c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises.
Et depuis?
Mais depuis, il a sorti en 2022 un texte qui s'appelle Utopia, qui est quasiment un manifeste anarchiste dans ce qu'il y a de plus politique comme terme. On ne parle pas ici de chaos, on parle d'une société anarchiste et pas anarchique, pas nihiliste non plus. C'est un joli bébé de 500 pages quand même. Et donc c'est un manifeste et tout le principe de ce livre, c'est de montrer comment et en quoi une société anarchiste peut exister et est une utopie.
Ok. Alors Camille, il va rester aussi jusqu'à samedi matin, ce qui l'animera aussi un atelier d'écriture.
Alors,
là-bas.
Jusqu'à samedi midi du coup, puisque c'est samedi matin qu'il va faire son atelier d'écriture. Mais oui, tout à fait, c'est ça. Dans les amphithéâtres de l'université, je ne sais plus exactement lequel, il proposera donc...
Une salle de classe, parce qu'il me semble qu'il y a une quinzaine de places. Hein, donc... D'ailleurs, je sais pas si c'est strictement réservé aux étudiants.
Alors non, ça je peux te répondre, ce n'est pas strictement réservé aux étudiants, mais c'est sur inscription au 4.
Ok.
Du coup. Oh bah, pourtant, ça a été indiqué. J'ai peut-être mal.
La suivante, alors celle de la semaine d'après.
Alors celle de la semaine d'après, c'est sur
Pierre-Marie.
Le corps. Et oui, il fallait bien que quelqu'un se dévoue et c'est moi qui vais me taper ça.
Ce sera aussi le thème de la nuit de la lecture d'ailleurs.
Exactement.
Ou les nuits de la lecture maintenant.
Alors le principe du corps, c'est on reste toujours sur l'idée de l'écoféminisme et de l'écoactivisme du 4, et on récupère trois personnalités féminines pour parler du corps. Alors nous avons Claire Garand avec sa nouveauté, son premier roman chez La Volte, qui parle notamment de à quel point est-ce qu'on peut utiliser le corps de personne pour la survie de l'espèce, à quel point l'individu s'efface au profit du collectif. Nous avons Audrey Plénet avec sa novella, qui elle parle de ce qu'on lègue aux enfants dans
cette petite novella.
Et c'est ça, c'est toute une nouvelle sur la maternité et sur à quel point.
Ouais. Alors
je sais que toi tu l'as pas moyennement apprécié.
Non, t'exagères. ça parle aussi de la cohabitation entre des espèces très très différentes dans une station spatiale, donc le corps aussi des extraterrestres.
Alors là, tu me spoil un petit peu pour ce que je vais développer après, mais tu as raison. Et enfin, il y aura donc une doctorante qui est rattachée à l'Université du Mans et qui prépare donc une thèse sur la littérature comparée sur l'image du vampire, le mythe du vampire. Et donc cette table ronde, comme tu dis, va être
animée
articulée entre la représentation, l'appropriation et la sublimation du corps dans les littératures de l'imaginaire. Et donc effectivement, le vivre ensemble et le rapport à l'autre, parce que en fait, un constat qui arrive relativement régulièrement, c'est que de fait, les littératures de l'imaginaire, bien qu'elles soient imaginaires, sont extrêmement anthropocentrées ou humanocentrées dans la représentation du corps.
Et donc, un petit peu comme toutes les littératures, non ?
Bah parce que c'est comme ça qu'on est fait, que c'est plus facile de s'identifier à un individu qui a deux bras, deux jambes et une tête, plutôt qu'à une grosse image verte. Merci Jabba. Donc la table ronde, voilà, va être représentée sur, en gros, qu'est-ce que les littératures de l'imaginaire nous disent sur la représentation du corps dans une humanité ou hors d'une humanité, et qu'est-ce qu'on en fait, et qu'est-ce qu'on cherche à dire avec ça.
On va essayer de les enregistrer, ces deux tables rondes, et de...
Le terme « essayer » étant le bon terme.
et de vous les diffuser dans cette émission, dans quelques semaines. Et puis, parmi ces trois invités, on en a aussi une qui reste pour un atelier d'écriture le lendemain matin.
Claire Garand, tout à fait, exactement.
Très bien. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire sinon sur le mois de l'imaginaire ? C'est la 5e édition.
Oui, alors pour rappel, c'est un événement qui avait été mis en place d'abord par un groupement d'éditeurs.
Ouais.
Et ont rapidement récupéré le bébé, énormément de libraires spécialistes et puis aussi de festivals, excusez-moi, pour proposer des thématiques ou des actions qui sont en lien avec ça. Pour mémoire, à la base, c'était grâce à Lovecraft qu'on a le mois d'octobre comme le mois de l'imaginaire. Et effectivement, il y a des choses qui se passent un peu dans toute la France sur cet événement-là. Et si vous allez sur le site du mois de l'imaginaire, vous voyez tout ce qui est proposé, sachant que, a priori, tout ce qui peut être enregistré, on est censé le retransmettre de manière à ce que ça soit accessible à toutes les personnes. Par exemple, vous voulez entendre une table ronde qui se passe à Nice, puisqu'il y a le salon, à Béziers, puisqu'il y a le salon du fantastique à Béziers sur le mois d'octobre. Et bah, vous pourrez entendre les conférences qu'il y a sur ce thème-là.
Bon, ben, on mettra un lien vers nos podcasts. Ça dure tout le mois, hein. C'est toujours en octobre.
Tout à fait.
Et puis, les éditeurs aussi font quand même quelques offres spéciales. Il y a des petits goodies à gagner tout le temps si vous achetez des livres de SFFF chez votre libraire dans le cadre de l'opération. Il y a toujours des petits trucs.
Tout à fait.
Eh ben, on se refait une petite pause musicale. On passe à une BO super épique. C'est celle de The Beastmaster, un film de Sword and Sorcery.
Tout à fait.
Des années 80. Tu l'as vu, toi? Bon, on pourra en parler après. Ça tape.
Yeah.
La BO de The Beastmaster. Alors en français, c'était Dar l'Invincible, je crois. Ça sonne déjà un petit peu moins épique, quand même, en VF. Et signé Lee Holdridge, qui est un monsieur qui a fait beaucoup de musique hollywoodienne, mais un petit peu mineur quand même, peut-être pas que hollywoodien d'ailleurs, et réédité sous la forme d'un double CD bien luxueux quand même sur un label américain qui s'appelle Dragon's Domain. Ça claque. The Beastmaster, je pense que je me suis remis à écouter des BO parce que je me suis acheté ce livre. Alors c'est du print on demand, donc je l'ai acheté chez les méchants, hein.
Ah,
c'est un Américain qui fait ça dans son coin. Comment il s'appelle ce monsieur? Pete Thorndike, quelque chose comme ça.
Mais tu sais
ça,
que bref. Les librairies peuvent aussi.
PJ Thorndike. Ah ouais, mais commander des livres comme ça qui sont
en
POD
anglais,
sur un site.
En allemand, il faut.
Ah bon, d'accord, ok, c'est mal ce que j'ai fait.
Il faut demander aux librairies. Ouais.
Ça s'appelle Barbarians at the Gates of Hollywood. C'est un petit bouquin.
C'est pas l'épée de Conan qu'on voit?
Si, elle est plantée dans des VHS parce que le sous-titre du livre, c'est Sword and Sorcery Movies of the 80s. Mm-hmm. Et d'ailleurs, en fait, en lisant la préface, qui revient quand même un peu sur toute l'histoire de la Sword and Sorcery, mais notamment littéraire, c'est assez intéressant. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'aimais surtout la Sword and Sorcery et pas trop la fantasy. À partir du moment où les livres commencent plus à nous raconter des histoires d'omelettes aux champignons et tout pour des nains, c'est là que j'ai commencé à trouver ça chiant, moi, ce style.
Au bûcher hérétique.
Je vous parlerai de l'expo Tolkien si vous voulez à Saumur en fin d'émission. Alors, il y a 4 grands chapitres dans ce bouquin. Alors, ça commence par The Barbarian Tide, puisque effectivement, il y a eu un gros effet de mode quand même, puisque Conan the Barbarian a cartonné en 1982. Donc, tout le monde a voulu faire la même chose, hein. Et le plus souvent avec moins de thunes. Donc forcément, ça donne des trucs, des films qu'on appelle cultes aujourd'hui. Alors The Beastmaster, quand même, c'est Don Coscarelli. Alors il faudrait que je le voie quand même, ce film, ce Dar l'Invincible. Parce que Don Coscarelli, c'est un réalisateur de films fantastiques qui est connu pour avoir fait Fantasme. Et il a fait 5 films comme ça, un peu, il en fait un tous les 8 ans, quelque chose comme ça. Qui sont un peu des films cultes, un peu de science fantasy horrifique. As a Beastmaster, donc le film est tellement passé sur le câble américain que maintenant tous les Américains l'adorent. Et donc il y a une blague quand même, comme quoi les initiales de HBO signifieraient Hey Beastmaster Zone.
D'accord.
Vous voyez, genre Hey Beastmaster passe, donc c'est sur HBO Hey Beastmaster Zone. Bon, ok. Donc il y a d'autres chapitres intéressants. Influence from Beyond the Stars, c'est un petit peu comment on va dire la Sword Sorcery est partie un petit peu dans les étoiles aussi avec Flash Gordon et tout ça, et merci
ce
Star Wars.
Du pulp en fait.
Ouais, alors on peut aussi appeler ça du science fantasy quand même. Et puis un chapitre sur tous les copies de Conan que Roger Corman a fait, parce que quand je parlais un petit peu de d'exploitation et tout, lui, il était quand même assez célèbre pour prendre un peu une mode et en faire des kilomètres, notamment souvent, il prenait un seul décor pour faire plusieurs films dans le même décor, genre avec les mêmes acteurs, il changeait juste les peaux de bête en fait, sur les gens, et voilà. Et puis, dernier chapitre, et ben d'autres aussi qui aimaient bien quand même les modes dans le cinéma, c'est en Italie, donc il y a eu tout un... ce qu'il appelle la Spaghetti Sword and Sorcery. Il y a beaucoup de films et qui étaient un petit peu cheap aussi. Voilà.
Mais c'est devenu des nanars cultes en fait.
Ouais, alors certains, pas d'autres et tout. Donc il y a quand même, on va dire, le gars est assez critique et tout et c'est assez rigolo à lire. Voilà, voilà. Allez, Karine, c'est l'heure de ton chronique.
Je vais donc vous présenter Visite de l'ICAM, publié aux éditions La Volte. Il semble difficile de prime abord à appréhender par l'utilisation de l'écriture inclusive, mais une fois que vous vous êtes laissé prendre par la plume de l'ICAM, cela n'empêche en aucun cas de s'immerger dans l'univers qu'elle nous propose. Dans ce roman, l'humanité a évité la pire des catastrophes climatiques, ce qui a engendré de nombreux changements de mentalité, illustrés notamment par cette écriture inclusive.
Et il s'est passé quoi? Tu peux nous expliquer un petit peu là? Comment on est passé à côté de la catastrophe? Non, tu peux pas?
Non.
Bon, dommage.
Non, parce que justement, j'aime pas spoiler.
Ah si oui, carrément, veux, même le, juste même si le setting,
si
tu peux
pas
le spoiler.
Si tu veux savoir, justement, tu le lis.
Ok, bon.
Et on suit principalement 3 personnages. Néa, une neuroatypique qui, sans sa neuroprothèse, ne peut ni marcher, ni penser. Basile, qui est gouverneur et qui va donc devoir gérer de nombreuses crises, et Anna, qui va aller sur Citive, une planète des plus mystérieuses. Dans cette société que nous propose l'ICAM, tout semble harmonieux jusqu'à l'apparition de cette fameuse planète Citive. Une équipe va donc être envoyée sur place pour comprendre ce qu'il se passe en faisant attention à respecter son écosystème. Mais il se passe beaucoup de choses sur cette planète. Ça ne se déroule pas aussi facilement que prévu puisqu'elle change visiblement les personnes dans leur comportement et aucune ne semble épargnée. Même pas l'intelligence artificielle qui les accompagne. Cette influence s'étend au-delà de la planète et va causer beaucoup de problématiques et d'enjeux. Les personnages et leurs relations entre eux sont une part essentielle du roman, et notamment avec Néa, qui est entourée d'Hugo et Pamela, qui font preuve d'énormément de bienveillance et de compréhension à son égard. Ils s'entraident beaucoup, s'écoutent et sont présents les uns pour les autres. Par ailleurs, la prothèse de Néa se révèle être une aide de communication pour une meilleure compréhension entre eux, qui interroge néanmoins sur une réelle inclusion. Avec ce roman de science-fiction, l'autrice nous pousse à réfléchir sur notre société, notre perception du monde, la tolérance face à la différence, et nous propose un roman brillamment travaillé, tant par l'écriture que par les personnages, en passant par le message profondément marqué tout au long du récit, celui du changement et de notre capacité d'adaptation. L'ICAM est l'autrice de sept romans et est une nouvelliste française. Elle anime la collection Petite Bulle d'Univers chez Organic Éditions. Je vous invite à découvrir sa plume et ses autres écrits.
Alors, un des thèmes principaux, puisque tu l'as bien dit et qu'il est important de le souligner à mon sens, c'est que l'ICAM a un lien très fort avec ce qu'on appelle les neuroatypiques, notamment avec l'autisme, et qui est notamment le sujet du texte résolution sorti en 2019, toujours chez La Volte, la collection Utopia, pour le coup, puisque c'était une collection qui existait avant. C'est pourquoi je parle de ça, c'est parce que lorsque le MIAI, une école d'ingénieurs de Grenoble, a ouvert ses portes en 2020, si je ne dis pas de bêtises, le texte de l'ICAM a été lu, parce que c'était censé être quelque chose d'inspirant sur la manière dont l'acceptation, la tolérance de la monstruosité neuroatypique était ce qui allait sauver l'humanité de tous les dérèglements climatiques et scientifiques. Je te laisse à ta musique.
En effet, puisque je vous laisse avec la chanson Libertalia de Morbiden.
Et deuxième chronique après. Hein.
Exactement.
Thank you. confus de retrouver en face d'anciens compagnons disparus. Survivant ici, mais le cœur vaillant, la joie explosa, les armes tombant. Se tombant dans les bras, les camarades sont contents. Certains crient, c'est un réfort. Ils nous parlent d'un nouveau port, nouvelle compagnie.
C'est comme ça qu'on dit.
C'est possible. J'ai peut-être écorché un peu le nom du groupe.
Groupe mais, de pirates métal français. Apparemment, ils viendraient de Clisson. Un extrait de leur deuxième album de Charybde. On dit Charybde ou Charybde?
C'est Charybde. Charybde et Scylla.
Ouais, c'est de Charybde en Scylla, effectivement, le titre de leur deuxième album qui était sorti il y a un an. Et donc, Karine, tu nous dis qu'ils seront en concert dans un mois à Angers, quelque chose comme ça,
le 10 novembre.
Avec Totenfish, autre star du pirate métal français.
Qu'on va écouter, pas voilà,
qu'on va écouter après cette prochaine chronique. Eh ben, on t'écoute.
Et cette fois, je vais vous parler de Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel, publié par Les Trois Nornes. On change de registre avec cette fois de la fantasy. Dans son roman, on est débarrassé de la mort. Et oui, des sorcières causent la fin de la mort et la création de murs de brume. Mais ce n'est pas si positif. De murs de brume.
C'est ok. Petite, elle a du mal encore à articuler.
Non, mais c'est juste, j'avais bien compris les mots, mais je vois pas le rapport, mais c'est pas grave.
Mais c'est parce que justement, elle cause.
C'est un rapport
ça.
Avec la mort. C'est un rapport avec la fin de la mort.
Plus ou moins.
Ah, bon, tu veux pas spoiler.
Exactement. Mais c'est toujours le même principe avec mes chroniques. Donc c'est pas si positif que ça, puisque les morts sont transformés en spectres dévoreurs.
Ah oui, quand même.
Eh oui. Le seul espoir de faire revenir la mort serait de tuer les sorcières. C'est donc dans cet objectif que le culte du Grand Œil missionne Sœur Magartha de traquer la sorcière la plus puissante qui existe, la Corneille Blanche. Sœur Magartha revient donc sur ses terres natales, une des îles situées au nord du continent, pour noyer sa mère, devenue un spectre. C'est la seule solution pour les tuer.
Attends, on va noyer un fantôme.
Lis-le.
D'accord. Alors ça, c'était mon premier
derrière
aparté.
Qui est caché derrière un
le deuxième aparté, c'est le Magartha, tout ça. Ça me fait penser, je sais pas si tu te souviens, à cette vidéo sur le jeu de rôle qui était sorti dans les années 2000 avec des personnages qui avaient nommé leur alter ego de jeu de rôle avec que des G et des G parce que ça fait plus médiéval. Hein. Vas-y, je te laisse continuer.
Ah non, mais c'est parce qu'elle devient sœur Magartha. Mais son nom d'origine est un peu plus complexe à l'oral, donc je vais vous le mettre plutôt par écrit hein, quand la chronique atterrira sur le site. Ce sera mieux. Donc j'en étais où ? Donc cette sœur Magartha revient sur ses terres natales, une des îles situées au nord du continent. Eh ben oui, voilà.
Mais voilà, vous voyez sa mère.
Il m'a fait herber. Elle va en profiter pour rechercher et capturer cette fameuse sorcière. Pour retrouver la Corneille Blanche, elle va être accompagnée de son ancien voisin, dont je vous citerai le nom plutôt par écrit. dont les croyances sont opposées aux siennes. Mais forcément, cette quête ne sera pas si évidente. Tout n'est pas noir ou blanc. C'est donc une aventure des plus dangereuses qui les attendent. Dans ce roman, le contexte est très riche et travaillé. On sent des inspirations celtiques à travers l'existence de druides et quelques touches de steampunk avec des bateaux volants, nommés les navires cathédrales, qui sont alimentés par la magie, nommée Vivicia. Cette magie forme des nœuds de pouvoir visibles et utilisables que par quelques élus et sert aussi pour ensorceler des armes servant à combattre les spectres. Les personnages sont très bien construits également, puisque les différentes perceptions et points de vue nous offrent de nombreux angles de compréhension pour mieux appréhender l'univers de ce récit. Ils sont très touchants car l'auteur met en avant l'évolution des liens qu'ils vont tisser et leurs différences, à la fois très concrètes de par le vieillissement du corps et les difficultés que ça peut entraîner, que par leurs expériences et leur façon de voir les choses. Arnaud Cazel nous pousse à travers cette histoire à réfléchir sur la mort, les souvenirs, le vieillissement et la place des religions. Nous regrettons la mort est le premier roman publié d'Arnaud Cazel. Il a également écrit le premier tome d'Un certain goût de plomb publié aux éditions Oniri. Je vous avais fait une chronique de ce titre en juillet. Et je vous invite une nouvelle fois à découvrir sa plume et à être attentif et attentive à ses prochaines parutions. Je vous laisse maintenant avec la chanson The Highland de Totterfish.
Donc on va sur une île aussi, nous, encore une île de pirates énervés, c'est ça, hein. On va voir ça tout de suite. Tout. Voilà. Et ben voilà, on a coulé. Totterfish, c'est ça?
Oui.
Je sais même plus ce que ça veut dire. Et ben, poisson mort, non?
Oui, oui, je crois, c'est ça. Bah, attends, j'ai pas mon dictionnaire allemand sous la main, je t'avoue. Mais oui, je pense que. Bref.
Donc, autre groupe de pirates métal. Alors, bon, ceux-là, ils viennent de Tours.
Pourquoi tu nous demandes à nous les traductions?
C'est toi qui choisis.
Mais je te rappelle
trucs.
Que t'es censé présenter le groupe que tu choisis.
Et chaque mois, non, on m'a jamais dit ça. Hein,
c'est toujours moi qui le fais. En attendant, c'est toujours moi qui le fais.
Oui, mais justement, on m'a jamais dit ça à moi. On m'a dit de proposer une musique.
Donc, on les verra dans le concert, si on veut, dans un mois, aux Folies Angevines en plus. Est-ce qu'on peut venir déguiser? Je sais pas, deux groupes de pirates métal.
J'ai envie de dire oui.
Et je vais pouvoir ressortir le superbe chapeau rose que j'avais eu au Lazare Fest. Ouais, vous ramenez, non?
Alors là, si on se croise, une petite moustache à l'aérophile.
Et si jamais tu veux, j'ai des coutelas.
Bah, t'auras
que j'ai
si
acheté chez Kiabi. Ils font 10 cm des sabres de pirates.
Il y aura peut-être un service d'ordre quand même à l'entrée. On sait pas. Si c'est... Parce qu'aux Folies Angevines, d'habitude, à mon avis, il n'y en a pas. Mais là, pour cette soirée chrome, si je comprends bien. Chrome.
Ben oui, il me semble que c'est chrome.
Donc le 10 novembre,
ouais, avec ça peut être que... les Folies Angevines.
Bon, Pierre-Marie, bah tiens, on va te mettre ton jingle. Oui. Toi aussi, t'as un livre à nous présenter ce soir.
Oui.
Si la caméra est branchée.
Bah, j'espère pas, parce que comment est-ce que
sur
je fais
tes jingle.
C'est bon, je peux commencer?
Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Bien.
Merci beaucoup. Alors, du coup, il faut que je vous avoue que cette chronique n'est pas une chronique comme les autres, parce que du coup, je n'avais absolument aucune idée de quoi vous parler. Je lis pas mal de livres ces temps-ci et je n'arrivais pas à choisir le livre qui était le coup de cœur suffisant pour faire une chronique à la radio. Et puis, on a échangé. Et j'ai eu passer sur nos différents échanges les titres que tu allais proposer en chronique. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver un titre qui soit un mix de tout ce que tu fais et qui n'y ressemble absolument pas. Du coup, j'ai un livre qui fait de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy, féministe mais totalement machiste, qui soit un plaisir coupable, c'est-à-dire pas très intellectuel, mais en même temps dont l'univers est suffisamment profond pour pousser à la réflexion. Et j'ai trouvé.
Et en plus, c'est en lien avec les Games Workshop pour cette émission que nous n'avons toujours pas faite, mais on va la faire avant la fin de l'année.
À chaque fois. Et je suis tombé sur un premier roman. Oui, monsieur, je suis tombé sur un premier roman qui est franchement pas mal du tout. L'auteur était connu pour une petite nouvelle qu'il avait sortie dans une anthologie. Et comme tu l'as dit, il s'agit d'un roman Warhammer 40 000. Il y a énormément de choses à dire sur cet univers, dans du bon et du moins bon. Ah. Nous en parlerons d'ailleurs de cet univers Game Workshop avec Claire Garand et Audrey Plenet dans cette table ronde sur le corps. Bah oui, les Astartes, la Légio Astartes, le surhomme, le surmoi, la quête de la pureté.
Ah oui.
Il y a plein de choses à dire sur le corps, du bon et du moins bon. Mais c'est absolument pas la question, puisque là je viens vous parler d'un petit roman qui est sorti tout récemment, en août 2023.
Donc ça continue tout ça.
Et tu me laisses faire ma chronique. Et du coup, je viens vous présenter le Veneur des sorcières. Je sais jamais comment on dit Veneur.
Veneur, moi je dirais.
Oui, c'est ça, c'est celui qui guide lors de la chasse, en fait. D'un certain Stephen B. Fisher. Donc, comme je vous disais, si vous cherchez cet auteur-là sur Babelio ou sur tous les sites de vente de librairies qui se respectent ou moins, eh ben, vous saurez que Stephen B. Fisher, c'est un médecin qui vit dans le nord-ouest des États-Unis et qui n'a jamais approché de près ou de loin la littérature, si ce n'est pour lire. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à mon avis, il a gagné au loto et il a sorti un livre. Chez Game Workshop, alors, Warhammer 40 000. Pour mémoire, Game Workshop a deux univers Warhammer, le Vieux Monde, et Warhammer 40 000 qui se passe le 41e millénaire, c'est de la science-fiction, anticipation. Mais là, alors niveau science-fiction, on est quand même science râlée pâquerette, fiction extraplanétaire, donc c'est de la fantasy science-fiction, du space opéra, c'est un peu de tout en fait. Tu avais une question.
Ouais, je me disais peut-être que, est-ce que ça peut être une campagne de jeu de rôle dont il aurait fait un roman?
Pas du tout.
Ah bon.
Alors, pour remettre les choses à plat, Fut un temps, il y a très très longtemps, alors on parlera dans une autre émission de qu'est-ce que Game Workshop et un peu l'évolution de cette entité. Il faut savoir que c'est l'entité de jeux de figurines la plus puissante au monde en termes financiers. Si vous voulez placer votre argent sur des boutiques de jeux de société, de ludiques en fait, mettez vos actions, enfin achetez des actions Game Workshop, vous avez moyen de devenir très très riche. Bref, dans les années 95, ils ont ouvert une nouvelle maison d'édition, un petit peu en concurrence à l'époque avec Fleuve Noir qui sortait ses romans de chez, Star Wars. Et puis il y avait une autre maison d'édition qui s'ouvrait et qui commençait à sortir des romans de jeux vidéo, puisqu'on a vu des Warcraft, des Mass Effect, des Guild Wars qui sortaient en romans, et Warhammer n'avait pas de livre. Et donc en 95, ils décident d'ouvrir leur propre maison d'édition anglaise qui s'appelait Black Library, pour des publications anglaises. Bah oui, tout se passait en Angleterre, à part les livres d'armée qui étaient en français. Et en France, bah, on n'en avait pas beaucoup, et pourtant il y avait une demande, mais une vraie demande pour avoir les livres. Et puis les Français ne parlent pas très bien anglais, mais par contre ils lisent super bien en anglais. Donc ça dépotait pas mal. Et donc il y a une maison d'édition qui s'est ouverte avec une exclusivité avec Game Workshop et qui s'appelait La Bibliothèque Interdite et qui ont duré jusqu'à 2005 de mémoire. Et ils ont fini par couler parce que ne faire que ça, acheter des droits aux Anglais et puis les droits d'auteur aux auteurs avant de les publier en français et de les vendre, ça rapportait pas assez. Donc ils ont coulé et tout a été racheté par Black Library qui a sorti une succursale Black Library France pour faire exactement la même chose. Mais du coup, il y avait pas besoin de racheter les droits qu'ils avaient déjà. Et donc, en gros, il y a un an de décalage entre la publication étrangère et la publication française, le temps de trouver un bon traducteur qui arrive à sortir le livre. Et pour répondre à ta question, oui, les univers sont encore en marche pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Warhammer. Donc, les deux univers, la fantasy, on est plutôt sur de la dark fantasy et puis le côté science-fiction, ce sont des univers qui ne se sont pas arrêtés, un petit peu à l'image d'un jeu de rôle massivement multijoueur, World of Warcraft, c'était le plus connu. Et chaque année, il y a des nouvelles choses qui s'incrustent dans ce qu'on appelle le lore, qui est en fait, oui, la tradition orale, c'est ça, la traduction d'un lore. Quand si vous êtes un petit peu des joueurs de jeux vidéo, L-O-R-E, c'est la tradition, c'est exactement comme faisaient les druides dont tu parlais tout à l'heure, les bardes ou les scalds, c'est la tradition orale de l'univers. On n'est pas très loin d'une mythologie. Donc cet univers est en évolution. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de changements entre... Moi, j'avais arrêté vers les années 2010-2015 Warhammer, parce que j'avais plus de temps et surtout plus d'argent. Et là, je me suis remis au livre et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tout a évolué, tout a avancé. Et c'est bien parce que c'est un univers vivant, du coup. Et on s'éloigne un petit peu de ce roman. Alors, il y a beaucoup de factions. Il y a des orques. Bah oui, un univers de combat sans orques, il n'y a pas d'intérêt. Il y a des démons aussi. Bah, la même chose. Et du coup, s'il y a des démons et des orques, il y a forcément des chevaliers, des prêtres. Et aussi un peu de mages et aussi plein de choses. Mais on est dans un univers de science-fiction où l'humanité a conquis des millions et des millions de mondes. Un monde, genre la Terre, n'a plus aucun intérêt, si ce n'est la Terre, justement, parce que c'est la capitale de tout l'univers humain. Il y a d'autres groupuscules, soit extraterrestres, on les appelle des xénos parce que ce sont les étrangers finalement, plus ou moins humanoïdes ou totalement décérébrés puisqu'il y a des xénomorphes qui arrivent, il y a des morts vivants de l'espace, il y a des sortes de samouraïs de l'espace du coup, et il y a même des nains de l'espace, il y a un peu de tout, c'est génial. Et tout le monde se fout sur la gueule joyeusement parce qu'il n'y a pas de chose plus drôle que de mourir en combattant. Une mort glorieuse avec beaucoup de sang et de viscères. Et l'humanité est en guerre perpétuelle depuis 10 000 ans et essaye tant bien que mal de survivre. Et donc, tout un chacun peut devenir un garde impérial, donc rentrer dans la force militaire, une sorte de casque bleu de l'humanité, sauf qu'ils ont des armes et qu'ils passent leur temps à se faire pourrir dessus. Genre, des méchants, baïonnette au canon. Des chars, baïonnette au canon. Des dieux, baïonnette au canon. Et la plupart du temps, on ne survit pas. Et donc là, on arrive sur une planète... et on va suivre, donc c'est un roman qui appartient à la collection L'Astra Militarum, ça sous-entend qu'on va y lire une histoire de garde impériale, donc des humains qui n'ont absolument aucune amélioration sinon d'être nés en quarantenium millénaire et d'avoir le vague espoir de se faire amputer et remplacer par un membre cybernétique, histoire d'être un peu plus compétent, c'est relativement rare. Et on est sur une planète qui n'a aucun intérêt, mais alors vraiment aucun intérêt. Comme je vous disais, on est au 41e millénaire, il y a des millions de mondes, tous les mondes doivent subvenir aux besoins de l'impérium global suivant leurs capacités, on appelle ça la dîme, il y en a qui vont donner de l'argent, d'autres qui vont donner des vies, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer une partie de la population chaque année, un même nombre de pourcentage de population qui vont être des gardes impériaux, pourront être envoyés au front et ils mourront dans l'année, sinon il n'y a pas d'intérêt, ou alors ils vont sortir des minerais, des choses comme ça. Et là, cette planète n'a aucun intérêt. C'est une sorte de marécage global sur la totalité de la planète, sauf à un petit endroit où c'est plus un marécage, c'est une toundra. Et le seul intérêt qu'elle a, c'est que régulièrement, elle produit, enfin, dans sa population, apparaît des sorciers. Mmh. C'est des gens qui sont nés avec des capacités psychiques. On parle pas de sorciers, on parle de psychères. Et c'est une planète où il y a un fort taux de psychères qui arrivent. Et donc, ça justifie le fait qu'on se batte, on la défende pour la garder sous le giron de l'Imperium. Sauf que, il y a les traîtres. Il y a les agents du chaos, les démoniaques qui sont présents et qui veulent récupérer cette planète pour eux. Et on va suivre l'héros, le personnage principal, est une héroïne et c'est une psychère qui appartient à la garde impériale, qui revient pour être dans la garde impériale, son régiment, puisqu'on parle encore une fois de milliards et de milliards de personnes qui sont des gardes impériaux et qui passent de planète en planète et qui ne finissent leur engagement qu'au moment où ils sont morts ou démobilisés parce qu'ils sont trop perdus corporellement pour pouvoir être utiles au front. Bref. Ah, c'est très joyeux, hein. Si tu perds un bras, une jambe et t'es plus capable de réfléchir, on te grève des membres et tu deviens un serviteur lobotomisé, sinon il n'y a pas d'intérêt. Non, non, c'est hyper joyeux. Si vous êtes dépressif, ne lisez pas des choses comme ça. Mais du coup, on va suivre ce personnage qui est un psychiatre qui vient sur ce monde pour rejoindre son ancienne compagnie quand elle était juste capitaine. Et là, l'ancien psychiatre qui était présent a disparu. Il faut savoir pourquoi est-ce que le psychiatre a disparu. Et surtout, il y a toujours ce péril des chaotiques qui veulent conquérir ce monde-là. Et donc, il faut se battre contre eux. Et on se rend compte que, en fait, les psychiatres sont capables d'agir un petit peu sur l'environnement. Et je vous parlais d'un marais, comme régulièrement dans les marais, il y a des feux follets, il y a des fumerolles, et puis il y a du brouillard. Être présent peut s'avérer dangereux pour les gardes. Et donc, ce psychiatre est à la fois là pour les protéger et puis pour pouvoir mener l'enquête, pousser pour retrouver l'autre psychiatre qui était là avant, dont personne ne se souvient alors qu'ils ont passé des années avec lui. Mmh. Donc, on est sur un roman d'enquête et de guerre. Comme je vous disais, ça n'a rien à voir avec de la science-fiction, si ce n'est que c'est l'anticipation 41e millénaire. Ça n'a rien à voir avec de la fantasy, sauf que c'est un combat entre des démons, des mages et puis des soldats, mine de rien. Ça n'a rien à voir avec du space opéra parce qu'on reste sur la même planète. Et ça n'a rien à voir avec un truc utopiste parce que de toute façon, ils vont tous mourir. Mais franchement, je vous disais, plaisir coupable, vous lisez ça. Ça fait plaisir.
Est-ce que c'est un one-shot ?
C'est un one-shot. Comme je vous disais, donc, il y a plusieurs catégories, plusieurs collections de romans. Là, c'est l'Astra Militarum. Donc, ce sont tous les romans qui concernent la garde impériale. Il y a des suites, il y a des séries à l'intérieur même de cette collection. Mmh. Là, c'est un one-shot. Et ça suffit lui-même. Comme je te disais, tu arrives à la fin. Il peut pas y avoir de suite. Okay. Même si tout le monde ne meurt pas. Hein. J'ai beaucoup catégorisé. Tout le monde ne meurt pas. Mais l'histoire en elle-même est terminée.
Mais deuxième question, est-ce qu'il faut connaître un peu tout le lore et tout Warhammer 40 000?
Ça rajoute une profondeur, mais c'est ça qui est bien avec ce roman-là, c'est que comme c'est un one-shot de quelqu'un qui n'a pas écrit, en fait, il a écrit sur un truc qui lui plaisait, il a tiré des petits bouts d'un peu partout. Le roman est suffisamment court et intense pour que tu aies pas besoin de plus d'explications derrière. Par contre, effectivement, si jamais tu connais un petit peu, parce qu'on a donc la tradition, le lore derrière, tu as accès à une profondeur du roman qui te donne, ah oui, tiens, on me dit ça parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, et puis ça donne ça. Mais si jamais t'as pas tout ça, c'est très bien.
Ok. Bon, et ben, on va arrêter cette émission.
Oui.
Et
bonne soirée.
Non, c'est la musique. Aussi. Et alors, je t'explique comment est-ce qu'il faut faire pour présenter sa musique.
L'agenda, peut-être, on rappelle quand même avant.
Et tu vas nous présenter l'histoire de ta musique, alors.
Tout l'histoire. On rappelle quand même que, le mois de l'imaginaire, venez assister à nos deux tables rondes.
Le 6 et le 13. Voilà, à l'Université d'Angers, à la BU Saint-Serge.
Donc, c'est au carré même. C'est quand on rentre, on monte l'escalier, paf, c'est au bout en face. Donc, à 18h30.
Tout à fait, pendant une heure. 18h30, 19h30.
Et puis, n'hésitez pas à les contacter pour voir s'il reste des places pour les ateliers d'écriture. Donc, avec d'abord Camille Le Boulanger.
Exact.
Et ensuite, Claire Garand.
Claire Garand, tout à fait.
Voilà. Et nous, on se retrouve dans deux semaines sur le 101.5.
Abandonne avec Poupillé, qui est une musique du groupe Fiat 131. Alors, je suis désolé, c'est un groupe qui est italien et je suis incapable de vous dire 131 en italien, mais nous avons le droit à un petit pop rock italien qui fait plaisir.
C'est de la musique un petit peu de Skyrock quand même.
Soleils,
mais vous êtes bien sur Radio G.
Io mi perdo ancora nelle tue pupille e i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille. Dimmi cosa rimane delle notti passate in un letto a fare l'amore. Dimmi cosa rimane, a parte questo silenzio, tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, Nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto ogni temporale e imparare che se lo vogliamo davvero possiamo cambiare. Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille. Restiamo a gravitare in queste 100.000 stelle tra i segni dei miei morsi fermi lì sulla tua pelle. E te lo dico da sempre e non mi serve niente. Dimmi cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio a guardarci nascosti, perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, condividere con te paure ed errori su un solo cuscino e resistere insieme sotto ogni temporale e imparare che se lo vogliamo davvero possiamo cambiare. Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille. Restiamo a gravitare in queste 100.000 stelle tra i segni dei miei morsi fermi lì sulla tua pelle.
www.radio-g.fr